3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production. Le tout enrobé d'une sauce très rétro.
Né en 1946, Jason Voorhees est le fils de Pamela Voorhees et Elias Voorhees. Venu au monde avec une tête hydrocéphale et victime d'une paralysie faciale périphérique du côté droit de son visage, Jason se retrouve en 1957 dans un camp d'été où sa mère travaille comme cuisinière, mais devient le souffre-douleur des autres enfants du camp. Après avoir perdu pied, Jason tombe à l'eau et, ne sachant pas nager, se noie. Mettant la faute sur les moniteurs qui ne s'étaient pas occupés de lui, Pamela se vengera l'année suivante en assassinant un couple de moniteurs, ce qui forcera alors la fermeture du camp Crystal Lake. Entre 1957 et 1980, on déplorera d'inexplicables incidents, dont un en 1962 où le camp devait être réouvert au public, mais qui dut à nouveau être fermé à la suite d'une mystérieuse pollution de l'eau. En 1980, un groupe de jeunes gens chercheront à réouvrir le camp, mais seront attaqués par Pamela, qui sera alors décapitée par la seule survivante du massacre, et ce sous les yeux du jeune Jason, qui avait survécu à sa supposée noyade et qui avait été en cachette témoin de tous les agissements meurtriers de sa mère. Cela poussera alors ce dernier dans une folie meurtrière qui décidera alors par la suite d'éliminer toutes les personnes qui entreront à Camp Crystal Lake afin de venger sa mère. Voici la légende de Jason Voorhees, ce personnage iconique de la franchise de Friday the 13th, une série de films d'horreur américains qui sera composée de 12 films, d'une émission de télévision, de nombreux romans et autres bandes dessinées, de jeux vidéo ainsi que de plusieurs autres produits dérivés. Les films ont rapporté plus de 500 millions de dollars de recettes au box-office mondial. C'était la franchise d'horreur la plus rentable jusqu'à la sortie du nouvel Halloween en 2018, plaçant cette franchise devant Vendredi 13 au niveau recettes monétaires. Bien que les films n'aient pas été reçus positivement par la critique professionnelle, la franchise est tout de même considérée comme l'une des plus médiatisées et des plus prospères en Amérique du Nord, non seulement pour son succès, mais aussi pour les nombreux produits dérivés qui en découlent. Dans cette édition de Programme Double, je vous parlerai donc du troisième et quatrième chapitre de cette série, volets qui instaureront le personnage de Jason Voorhees dans la légende du slasher film avec l'apparition de son masque iconique. Donc, préparez vos lunettes 3D et votre pack-sac et aiguisez vos machettes car je vous propose ici la deuxième partie de notre voyage dans l'univers morbide de la saga Friday the 13th en continuant notre excursion dans le secteur du camp d'été américain, Camp Crystal Lake.
Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
delicious things to eat.
The popcorn can't be beat.
The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Yum, yum. It's a meal in itself. Our all-meat super dog. Enjoy one now.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
On the floating ships,
no
shots. I did all my best to smile.
This was my bedroom. It's yours for the weekend.
I know it's only been 2 years, but I feel like I've been away forever. There's a whole weekend ahead of us. Let me get to know you again.
Okay.
I did it! Did I do it?
Yes, you did it! You were great!
From the minute we got here, I've been seeing things and hearing things.
Eight corpses have been discovered in the most brutal and heinous crime in local history. Bodies were found literally strewn. A police spokesman told that they are afraid that their gruesome discovery is just the beginning.
Wasn't this store closed a few minutes ago? It's probably just my imagination.
Friday the 13th Part 3 in 3D, ou Meurtre en 3 dimensions, est un drame d'horreur distribué par Paramount Pictures le 13 août 1982. Ce film américain d'une durée de 95 minutes coûtera 2,2 millions de dollars à produire, mais ramassera plus de 36,7 millions au box-office international. À la chaise du réalisateur, on y retrouve de nouveau le réalisateur Steve Miner, celui qui nous avait donné Friday the 13th Part 2, House, Warlock, Forever Young et Halloween H2O. Et au niveau de la production, on y retrouve le producteur Frank Mancuso Jr., ce producteur américain qui nous avait donné April Fool's Day en 1986 ainsi que son remake en 2008, Running et He Said, She Said. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Martin Kitrauser, ce scénariste américain qui nous avait donné les scénarios de Friday the 13th Part 5 et Model Behavior. Carol Watson, cette scénariste américaine qui a travaillé sur un épisode de South Park. Et Petru Popescu, qui est un scénariste roumanien-américain qui a travaillé sur les films Obsessive Love et Emma, Queen of the South. Au niveau de la distribution, on y retrouve Dana Kimmel, Paul Kratka, Tracy Savage, Jeffrey Rogers, Catherine Parks, Larry Zerner et Richard Brooker dans le rôle de Jason Voorhees. Une jeune fille invite quelques amis à passer un week-end au chalet de ses parents près d'un lac. Elle ignore cependant que peu de temps auparavant, un maniaque assassin s'est attaqué au moniteur d'une colonie de vacances située non loin de là. Le meurtrier ne tarde pas à manifester sa présence en trucidant l'un après l'autre les membres du petit groupe. Suite au succès de Friday the 13th Part 2, Paramount Pictures demande de nouveau une suite qui devait à ce moment-là clôturer la trilogie. On approchera alors une nouvelle fois le scénariste Ron Kurz, mais celui-ci décida de ne pas revenir, laissant ainsi la place au couple de scénaristes Martin Kitrauser et Carol Watson. Un premier scénario est alors écrit où on devait retrouver Ginny, héroïne du précédent volet, dans un hôpital psychiatrique. Jason devait se mettre à sa poursuite, zigouillant les patients qui se mettraient sur sa route. Cependant, l'actrice Amy Steele, qui incarnait alors le personnage de Ginny dans le film précédent, préféra partir sur d'autres projets à la suggestion de son agent de l'époque et donc l'idée sera abandonnée et un nouveau scénario sera alors écrit. Par la suite, les producteurs vont se tourner vers le scénariste Petru Popescu qui retravaillera le scénario final et fera en sorte que ce dernier soit beaucoup plus menaçant et sinistre. Malgré que la version finale du scénario comprenne énormément de changements apportés par Popescu, ce dernier n'apparaîtra malheureusement pas au générique. C'est d'ailleurs Popescu qui sera présent aux auditions pour assister le réalisateur Steve Miner, qui fera alors un retour derrière la caméra suite au succès du film précédent, toujours accompagné du producteur Frank Mancuso Jr., qui lui reprendra également son poste de producteur. L'actrice Dana Kimmel sera alors choisie pour le rôle de la Final Girl, Chris Higgins, après que Miner ait appris que cette dernière avait joué dans un autre slasher film intitulé Sweet Sixteens, aux côtés de Bob Hopkins et Suzanne Strasberg. Tracy Savage, qui avait travaillé comme actrice à un très jeune âge, se vit offrir son rôle via son agent, alors que Larry Zerner obtiendra le rôle de Shelley lorsque la production le remarquera en train de remettre des programmes pour la présentation d'un film d'horreur dans la rue. Pour le rôle de Jason Voorhees, Miner se tournera vers le cascadeur britannique Richard Brooker parce qu'il avait besoin d'une armoire à glace pour interpréter le meurtrier légendaire. Brooker, mesurant presque 6 pieds 3. L'homme exécutera lui-même toutes ses cascades lors du tournage. Au moment de la conception du projet, le 3D, qui fut très populaire au cinéma durant les années 1950, cherchait alors à faire un retour avec des films comme Parasite et Coming at Ya. C'est alors que les producteurs et la Paramount décidèrent de s'en aller dans cette direction, ce film non seulement étant le troisième de la série, mais permettant d'utiliser le chiffre du volet pour s'associer avec la trois dimensions. Mais cela va s'avérer un véritable défi technique pour l'époque, car la grande majorité des salles de cinéma nord-américaines n'étaient pas prêtes pour cette technologie, cette dernière devant s'équiper avec un nouveau type d'écran et un nouveau type de lentille de projection qui permettra la diffusion d'un tel spectacle. De plus, le tournage sera cauchemardesque avec cette technologie qui n'était vraiment pas au point à cette époque. En effet, les acteurs devaient reprendre régulièrement leurs scènes car l'équipe technique avait de la difficulté à capter comme il faut l'effet 3D avec leur caméra, l'image étant continuellement floue ou encore hors focus parce que la caméra n'était pas bien alignée pour donner l'effet désiré. Cela pouvait donc prendre des heures pour tourner une scène et la plupart du temps, le résultat au niveau de la prestation des acteurs était moins important que le résultat final de la technologie. Même le producteur Frank Mancuso Jr. était inquiet que la distribution de son film ne puisse être réalisée à grand déploiement à cause de cette technologie. De plus, il s'agissait du tout premier long-métrage de la Paramount Pictures à être tourné avec la technologie 3D depuis le film d'aventure Jivaro en 1954. La compagnie embauchera alors Gil Weaver pour créer un type de lentille qui s'adaptera facilement aux lentilles des salles de cinéma qui projetteront alors Friday the 13th Part 3 et qui facilitera alors la distribution du long-métrage en Amérique du Nord. Paramount donnera un contrat de plus de 1 million de dollars à la compagnie Sirius Two Corps pour fabriquer ces dites lentilles qui ne seraient alors utilisées que par Paramount sur les productions de Paramount. Cependant, une autre compagnie de production de lentilles 3D, Mark Polarize Corporation, poursuivra le Major en cours pour plus de 25 millions de dollars, prétextant que la compagnie cherchait à s'approprier un monopole dans le domaine en promettant que les salles de cinéma qui utiliseraient leur technologie pour la diffusion de films 3D auraient un pourcentage additionnel sur les recettes des films présentés avec cette même technologie. Paramount réglera hors cours cette situation en indiquant durant le générique que le film avait été tourné avec des équipements en utilisant justement la technologie Mark Stroy DPX Converter qui appartenait à la compagnie Mark's Polarized Corporation. Cela permettra donc à Friday the 13th Part 3 in 3D de devenir pour l'époque le film 3D le plus commercialisé de toute l'histoire du cinéma nord-américain et aura tellement de succès qu'il sera à l'origine d'un revival de la 3D au cinéma, le film étant suivi par d'autres longs-métrages tels que Amityville 3D de Richard Fleischer, Jaws 3D de Joe Alves, Space Hunter Adventures in the Forbidden Zone de Lamon Johnson et finalement Metal Storm The Destruction of Jared Sin de Charles Band, avant de retomber dans l'indifférence jusqu'à son retour dans les années 2000. Friday the 13th 3 fut tourné au Valuzet Movie Ranch à Saugus, en Californie. Ce sera d'ailleurs la toute première fois de la série qu'un film de la franchise ne sera pas filmé sur la côte est des États-Unis. Le chalet, la grange ainsi que le lac présenté dans le film ont été construits sur mesure pour le tournage. Le chalet est resté sur le terrain jusqu'à l'incendie qui l'a détruit en 2012. Dans le scénario, il était écrit que Jason devait porter un masque. C'est grâce au concepteur des effets techniques 3D Martin J. Sadoff que Jason obtiendra son masque de hockey qui est, avec le temps, devenu si iconique. En effet, Sadoff était un véritable fan de hockey et traballait son sac d'équipement avec lui sur le plateau de tournage. Alors qu'on réalisait des tests pour savoir quel type de masque allait être porté par Jason, Sadoff sortira de son sac un masque de gardien de but des Red Wings de Détroit des années 50 et le réalisateur Steve Miner tomba totalement en amour avec le visuel du personnage. Après avoir apporté quelques modifications au masque, Miner trouvant ce dernier trop petit, la décision fut alors prise, une décision qui deviendra une marque de commerce du meurtrier en série et qui fera de lui une icône de la culture populaire. Après la fin du tournage, le film sera monté, mais de nouveau devra subir des coupures additionnelles à cause de la MPAA. Les morts d'Andy, Vera, Enna, Chili et Debbie durent être raccourcis afin d'éviter une classification X. De plus, deux fins différentes furent filmées, soit une séquence dans laquelle Chris tue Jason, mais à l'exception que le personnage de Harley survivait à la fin, et un autre où le personnage de Chris fait un rêve dans lequel Jason la décapite avec une machette. Henri Manfredini reviendra à la composition, mais ne composera que les tracks pour le début et la fin du film, ce dernier travaillant sur une production présentée à Broadway au même moment. C'est Jack Teller qui reprendra des tracks que Manfredini avait réalisés pour les deux précédents films, alors que Michael Zagar composera avec l'aide de Manfredini la musique des génériques du début et de la fin en refaisant le thème de Friday the 13th, mais avec un beat disco. Friday the 13th Part 3 in 3D sortira en salle le vendredi 13 août 1982 aux États-Unis. Présenté dans plus de 1079 salles, il s'agira ici du film 3D ayant reçu la plus grande distribution en salles à cette époque. Paramount investira entre 8 et 10 millions de dollars additionnels pour être capable de mettre le film 3D dans la majorité des salles nord-américaines. De plus, la compagnie établira une ligne d'urgence disponible 24 heures sur 24 pour former et répondre aux différentes urgences des projectionnistes durant la projection du film si problème devait survenir. Friday the 13th Part 3 est le seul film de la franchise à être filmé avec un ratio 2.35, les autres films de la série étant tournés avec un format 1.85. Cela était dû, bien sûr, aux effets 3D qui devaient être tournés en anamorphique. Le film amassera plus de 9,5 millions dans son premier week-end et battra alors le record du premier volet. Au final, Friday the 13th Part 3 in 3D amassera plus de 36,7 millions de dollars au box-office nord-américain, le plaçant en 21e place. En 82, le film était en directe compétition avec d'autres grands films d'horreur tels que Poltergeist, Creepshow, The Thing, Halloween 3 Season of the Witch, The Slumber Party Massacre, Visiting Hour, Amityville 2 The Possession, Silent Rage, The Beast Within et Cat People. La partie 3 est le quatrième film le plus lucratif de la franchise. L'organisation du American Film Institute nommera Jason Voorhees au 44e rang des 100 plus grands héros et vilains de toute l'histoire du cinéma. Friday the 13th Part 3 3D obtiendra deux novelisations. La première sera réalisée par l'auteur Michael Avallone et sera publiée en 1982 pour coïncider avec la sortie du long-métrage. En 1988, la maison d'édition Signet publiera un nouveau roman qui sera écrit ici par l'auteur Simon Hawke qui avait précédemment réalisé la novelisation du premier, deuxième et sixième volet de la série. À l'origine, ce film devait être le dernier de la série, mais son succès en salle forcera alors encore une fois la compagnie Paramount Pictures à financer un nouveau film dans la franchise. Celui-ci s'intitulera en 1984 Friday the 13th, The Final Chapter. Du côté des points forts, eh bien écoutez, c'est le premier film de la série où on va finalement avoir le Jason Voorhees dont on va s'habituer par la suite et qui va devenir ce personnage iconique. D'ailleurs, je vous dirais qu'à partir du moment où le masque apparaît, toute la dynamique de Vendredi 13 3 change totalement et le film devient beaucoup plus intéressant à partir de ce moment-là. Il y a quelques effets 3D qui sont vraiment très bien réalisés, même si dans l'ensemble, on sent que les effets 3D sont utilisés seulement à cause de la 3 dimensions, mais il y en a quand même qui sont bien recherchés et qui sont amusants. Au niveau de la distribution, eh bien, je vous dirais que c'est vraiment les actrices Tracy Savage, il y a également Catherine Parks et l'acteur qui fait Andy, qui est Jeffrey Rogers, qui sortent ou qui ressortent plutôt du groupe, eux autres qui sont vraiment très naturels, ce qui va m'amener d'ailleurs au point faible, puisque le reste de la distribution est véritablement coussi-coussa. Même l'acteur qui fait Shelley est vraiment horrible dans cette prestation-là, malgré que son personnage est quand même intéressant. Je vous dirais que tantôt, on parlait des effets 3D qui étaient bien réalisés. Dans d'autres cas, les effets 3D amènent des longueurs. On parle juste, la séquence d'introduction du film est interminable. Ça aboutit pas, puis c'est juste une série d'effets 3D pour faire sursauter l'auditoire, mais c'est pas véritablement quelque chose qui est nécessaire. Je vous dirais également que l'actrice principale est un petit peu comme Adrienne King, c'est-à-dire, autant par moment, elle est intéressante puis elle joue bien son personnage, autant par moment, elle est vraiment horrible. Lorsque Jason arrive, là, on voit vraiment qu'elle n'est pas à la hauteur au niveau de l'acting. Le film aurait dû peut-être se passer beaucoup plus tard. Au lieu de dire que l'histoire commence 24 heures après les événements de Friday the 13th Part 2, où est-ce qu'on voit un Jason qui a des cheveux, là, on arrive moins de 24 heures plus tard. Jason, qui a eu quand même une machette, qui l'a quand même blessé à l'épaule, bien normalement, il ne devrait pas être aussi mobile qu'il l'est et là, soudainement, il se retrouve plus de cheveux. Donc, il y a cette période où est-ce qu'on aurait pu dire que plusieurs semaines se sont écoulées, ce qui aurait permis, un, au personnage de Jason de peut-être se soigner de ses blessures et, deux, d'expliquer pourquoi il n'a plus de cheveux sur la tête. Certains effets 3D sont véritablement mal faits. On a juste à penser au serpent qui va se projeter en direction de l'écran où est-ce qu'on voit carrément les ressorts. Je pense qu'on aurait pu peut-être travailler les séquences mieux que ça ou tout simplement s'en passer. Si on voit que les effets étaient trop visibles, on aurait pu tout simplement éliminer ces séquences-là qui étaient inutiles. D'ailleurs, même le scénario est prétexte à des jump scares, ce qu'on appelle là, des scènes qui vont vous faire sursauter. Et le problème, c'est qu'ils ne vont pas le faire justement parce que les scènes sont manquées à cause qu'on est trop concentré sur le 3D au lieu de se concentrer sur la qualité du film. Au niveau de la mise en scène, ben, elle est vraiment statique. Miner ici est beaucoup moins intéressant au niveau de la mise en scène que dans le film précédent. Et je vous dirais, la fin est totalement ridicule. On a la séquence où Chris fait son rêve et là, elle est attaquée par Madame Voorhees, sauf que Chris ne connaît pas Madame Voorhees. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être navrant de voir, qu'on aurait pu se concentrer sur autre chose que de faire quelque chose pour faire juste des jumpscares. Au niveau de la musique, eh bien, c'est encore une fois Manfredini qui revient. Pour avoir accès à ça, vous avez le vinyle qui est sorti en 1982, qui inclut les trames sonores des trois films. Ça, c'était fait sous l'étiquette Gramavision Records. Mais après ça, vous avez le CD qui est sorti le 14 février 2018 sous l'étiquette La La Land Records, où on a juste la trame sonore du film Friday the 13th. La La Land Records va sortir le 10 octobre 2017 la trame sonore de Friday the 13th Part 2 et Part 3, les deux sur le même CD. Et finalement, on aura un vinyle qui sera mis sur le marché le 25 février 2016 par Waxwork Records. Donc, la trame sonore se trouve encore également sur vinyle. Je vous mets ici le thème disco de Friday the 13th Part 3 in 3D.
Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand.
Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you.
Yum, yum. It's a meal in itself. Our all-meat super dog. Enjoy one now.
Red alert! The Mysterons are in control of the post office tower. The European communications network is thrown into confusion. Big Orbit will put the Mysterons out of action. Communications are restored. Orbit is the greatest. Now, release the news about the European Adventure Cards. Free with every Orbit.
Big Orbit. Only ninepence from Lion's Mate.
And now, on with the show.
Déjà, il a frappé. La terreur grandit. La folie et l'horreur. Il vous a déjà fait frémir, mais aujourd'hui, il vous fera hurler de terreur. Jason est de retour. Il rôde. Comme une ombre, dans la nuit et le silence.
Sarah, tu as changé d'avis ?
Il ne dit pas un mot. Il ne semble même pas respirer.
Je ne vois pas, dis-moi, tu l'as rangé ?
Au hasard, sans pitié, il tue et tue encore. Et désormais, le règne de Jason est terminé.
Friday the 13th, part 4, The Final Chapter, ou Vendredi 13, le chapitre final, est un drame d'horreur qui a été distribué par les studios Paramount Pictures en salle le 13 avril 1984. Ce film américain d'une durée de 91 minutes aura coûté plus de 2,2 millions de dollars et aura ramassé plus de 33 millions de dollars au box-office nord-américain. À la réalisation, on y retrouve le metteur en scène américain Joseph Zito, lui qui nous avait donné The Prowler, Missing in Action et Invasion USA. On a encore une fois le producteur Frank Mancuso Jr. qui sera ici présent, lui qui a produit des films comme Internal Affairs, Body Parts et Species 1 et 2. Et finalement, c'est le scénariste américain Barney Cohen qui, lui, a travaillé sur les films Stunts, French Quarter et Forever Night, la série télé, qui écrira ici le scénario. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Corey Feldman, Kimberly Beck, E. Erich Anderson, Barbara Howard, Joan Freeman, Peter Barton, Crispin Glover, Judy Aronson, Camilla Moore, Kayrie Moore, Lawrence Monoson, Allison Hayes et Ted White dans le rôle de Jason Voorhees. Une femme divorcée vient passer quelques jours de repos près d'un lac en forêt avec ses deux enfants alors qu'un groupe de jeunes gens s'installe pour le week-end dans un chalet voisin. un fou meurtrier qui a perpétré quelques meurtres dans cette région et qu'on croyait mort, s'échappe de la morgue où on avait relégué son cadavre et revient sur les lieux de ses crimes antérieurs et commence par attaquer un à un les différents habitants de ces deux chalets. Tout comme le volet précédent, ce film devait être le dernier de la franchise. En effet, Paramount Pictures était conscient du déclin du slasher film et semblait embarrassé de son association avec la franchise, due principalement aux attaques répétées des critiques qui considéraient ce type de spectacle comme inadéquat pour un studio de production de la renommée de Paramount Pictures. De plus, le producteur Frank Mancuso Jr. désirait également conclure la franchise car personne ne semblait respecter son travail sur la série alors que celle-ci ramenait beaucoup d'argent au studio. Mancuso Jr. désirait fortement travailler sur d'autres projets qui lui permettraient de donner plus de crédibilité à sa carrière. Dès l'annonce du projet, le concepteur des effets spéciaux, Tom Savini, acceptera de faire un retour afin de tuer le personnage iconique qu'il avait aidé à créer en 1980. Après l'embauche du réalisateur Joseph Zito, qui avait travaillé précédemment sur le drame d'horreur The Prowler, ce dernier sera également embauché pour écrire le scénario. Cependant, Zito, qui n'est pas un scénariste, mais qui aurait été doublement payé pour les deux postes, acceptera le salaire de scénariste et va embaucher alors le scénariste Barney Cohen pour l'écriture du long métrage. Dès le départ, la production voulait changer le concept habituel de la Final Girl et du slasher film en faisant en sorte qu'il y aurait pas un, mais deux survivants à la fin et que l'un d'eux serait un jeune garçon. Cela amènera alors à la création du personnage de Tommy Jarvis, un personnage qui deviendra l'antagoniste de Jason pour les trois prochains films, incluant celui-ci. Le personnage de Tommy sera un hommage au concepteur d'effets spéciaux Tom Savini, d'où la raison de son intérêt pour la fabrication de masques en latex. Au niveau de la distribution, Camilla Moore se verra offrir le rôle de Samantha, mais lorsque Zito découvrira que cette dernière avait une sœur jumelle, le réalisateur décidera alors d'offrir aux deux jeunes femmes le rôle des sœurs jumelles Tina et Terry. Du côté de Peter Barton, l'acteur se vit offrir le rôle de Doug lorsque le sitcom dans lequel il avait un rôle, soit The Power of Matthew Starr, fut cancellé. Hésitant à jouer dans le film après une très mauvaise expérience sur le plateau du tournage du slasher film Hell Night en 1981, ce sera finalement l'actrice Amy Steele qui avait interprété le personnage de Jeannie Field dans Friday the 13th Part 2 et qui était également de la distribution du sitcom The Powers of Matthew Starr aux côtés de Barton qui convaincra finalement ce dernier de participer à la production du long métrage. À 58 ans, l'acteur-cascadeur Ted White sera l'acteur le plus âgé de la franchise à interpréter le personnage de Jason Voorhees. Cependant, suite à une multitude de problèmes personnels entre lui et le réalisateur Joseph Zito, White ne sera pas crédité à sa demande au générique dans le rôle de Jason. Le tournage débutera en octobre 1983 et se terminera en janvier 1984 et se passera à Topanga Canyon et à Newhall en Californie. Zito dépassera son horaire de tournage de 6 semaines, ce qui forcera alors Paramount Pictures à venir en aide pour la post-production. En effet, les studios louèrent une maison à Malibu pour que l'équipe de montage puisse dormir sur place et ainsi accélérer le processus de montage et ainsi également être capable de sortir le film à la date désirée. Même la nourriture fut livrée sur place pour faciliter le travail de l'équipe. Ce dépassement de délai au niveau du tournage fut provoqué par plusieurs difficultés lors du tournage. Le budget restreint de la production et surtout un mauvais traitement du réalisateur Joseph Zito qui forcera alors des acteurs à performer dans des situations dangereuses et inconfortables. Comme exemple, l'actrice Judy Aronson dut rester submergée dans un lac dont l'eau était extrêmement froide à un point tel que l'actrice souffrira d'hypothermie alors que l'acteur Peter Barton verra sa tête frapper violemment le mur de la douche lorsque ce dernier est attaqué par Jason dans la salle de bain. De plus, une relation très tendue, comme je disais plus tôt, se faisait sentir entre l'acteur Ted White et le réalisateur Joseph Zito. En effet, White prenait souvent la défense des comédiens sur le set et ira même jusqu'à menacer de quitter la production si Zito ne permettait pas à l'actrice Judy Aronson de sortir de l'eau entre les prises de vue. Se définissant lui-même comme un mercenaire, White, qui avait pris ce rôle uniquement pour l'argent, avoua également avoir eu des problèmes avec le jeune Corey Feldman, qui lui avait une attitude détestable sur le plateau de tournage, principalement à cause du traitement que ce dernier recevait du réalisateur. Durant le tournage de la séquence finale, dans lequel Jason passe à travers une vitre pour agresser Tommy, White retardera de quelques instants son action de passer à travers la vitre afin de véritablement surprendre le jeune Feldman et ainsi se venger de la désagréable attitude de ce dernier. Feldman allait lui-même avouer que dans la séquence où il tue Jason avec plusieurs coups de machette, le jeune homme qui frappait alors sur des sacs de sable imaginait que ces sacs de sable étaient en réalité le metteur en scène Joseph Zito. De quoi vous dire à quel point la situation entre les acteurs et le réalisateur était extrêmement tendue sur le plateau de tournage. Durant toute la production, l'actrice Kimberly Beck sera poursuivie par un homme mystérieux qui la suivait alors dans le parc où elle faisait ses exercices et recevait d'étranges coups de téléphone à n'importe quelle heure de la journée. Cependant, ces événements vont cesser dès la fin de la production. Du côté de l'actrice Bonnie Hellman, cette dernière se verra offrir le rôle de l'autostoppeuse au début du film, mais refusera le rôle lorsqu'elle se rendit compte que son personnage n'aura aucun dialogue. Finalement, son agent réussira à convaincre cette dernière de prendre cette chance unique d'avoir une excellente visibilité comme victime du légendaire Jason Voorhees. À l'origine, Tommy devait décapiter Jason, mais le concepteur des effets spéciaux Tom Savini décida de changer la fin et de la rendre beaucoup plus spectaculaire. Il existe cependant une fin alternative au film que l'on peut voir dans l'édition DVD Deluxe qui fut distribuée en 2009 et qui montre une séquence de rêve où Trish et Tommy se réveillent le lendemain matin après avoir tué Jason au son des sirènes de police. Alors que Trish envoie Tommy à la rencontre des policiers, celle-ci remarque que de l'eau goutte du plafond et se rend à l'étage où elle entre dans la salle de bain et trouve le corps de sa mère flottant dans une baignoire remplie d'eau sanglante. Trish voit alors sa mère sortir de la baignoire et Jason surgit de derrière la porte des toilettes et se prépare à l'attaquer. Trish se réveille soudainement à l'hôpital dans une scène qui rappelle la fin des premiers et troisièmes films. Il est à noter bien sûr que les images de ces scènes existent encore, mais que la bande-son a été perdue. Le compositeur Henri Manfredini sera de retour pour la réalisation de la musique de ce quatrième volet. Bien que la musique soit très similaire aux trois premiers films, tous les segments musicaux seront des nouvelles orchestrations qui seront enregistrées pour ce long métrage. Amassant plus de 11,1 millions durant son premier week-end, le film vendra un total de plus de 10 millions de tickets à travers les quelques 1600 salles où il fut projeté, et le succès de ce dernier va encore une fois forcer Paramount Pictures à se pencher sur la production d'une nouvelle suite, soit Friday the 13th Part 5, A New Beginning, qui sera distribué en salles l'année suivante. Suite au succès de ce film, le lutteur Carl Moffett, qui travaillait alors pour la Stampede Wrestling à Calgary, sera introduit sous le nom de Jason the Terrible, un lutteur qui portait alors un masque de hockey et un suit blanc et qui provenait de Camp Crystal Lake. Cette gimmick fut reprise au Japon et à Puerto Rico par le lutteur Roberto Rodriguez, ainsi que par Tracy Smothers et plusieurs autres lutteurs. Du côté des points forts de Vendredi 13-4, je crois qu'ici, on peut dire qu'il s'agit véritablement du meilleur film de la franchise. La mise en scène de Joseph Zito, bien qu'il y ait eu des problèmes au tournage, est excellente et Zito sait exactement comment mener son auditoire. Les scènes de meurtre sont véritablement spectaculaires, beaucoup plus que ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les volets précédents. De plus, Zito a une façon de filmer les personnages qui les rendent beaucoup plus intéressants. On va s'attarder beaucoup plus à ces derniers et aux dialogues. Au lieu d'avoir des dialogues un petit peu simplistes, on va vraiment plus voir comment ces personnages-là sont et on va apprendre un peu plus à les connaître. Ce qui fait que lorsque Jason va commencer à les décimer les uns après les autres, on va avoir un peu plus d'attachement que ce qu'on a été habitué jusqu'à présent. Savini fait une job remarquable au niveau des effets visuels. Je pense ici qu'on a effectivement affaire au meilleur film de la franchise au niveau des meurtres et au niveau surtout des scènes choc. La distribution est également excellente, probablement une des meilleures de la franchise jusqu'à présent et sera également une des meilleures de la franchise à venir. Il est à remarquer ici le travail de Corey Feldman et surtout de Crispin Glover, deux acteurs qu'on va voir beaucoup plus par la suite, mais qui font pas nécessairement leur début ici, mais qu'on va remarquer pour la première fois. Du côté des points faibles, eh bien, écoutez, le scénario demeure tout à fait banal, comme à l'accoutumée. Juste une série de meurtres les uns après les autres, sans véritablement de continuité. D'ailleurs, c'en est même ridicule parce que par moment, Jason est dans la maison. L'instant d'après, il est à l'extérieur. Tu te demandes comment il fait pour bouger aussi vite. Donc, il n'y a pas vraiment de logique entre chacun des meurtres. Ce qui est dommage parce que on voit quand même qu'il y a une certaine qualité qui a été mise dans ce film-là parce qu'on pensait que ça serait le dernier film de la saga. Mais on voit qu'on a bâclé d'autres choses pour aller chercher les effets chocs en question. La mise en scène est vraiment inégale. Par moments, on a une bonne mise en scène. On voit que la qualité est supérieure sur Vendredi 13, même au niveau visuel, que les trois films précédents. Mais d'un autre côté, on semble scraper le travail parce que soit par paresse ou encore pour aller chercher, comme je disais il y a quelques instants, des effets chocs faciles. Comme je disais précédemment, le compositeur Henri Manfredini est de retour à la conception musicale. Ça prendra quand même plusieurs années avant d'avoir cette trame sonore-là disponible, puisque celle-ci sera disponible le 13 juillet 2018 sous l'étiquette La La Land Records, où est-ce qu'on aura Friday 13 Part 4, The Final Chapter, et Part 5, A New Beginning, sur le même CD. Mais Friday the 13th obtiendra sa propre trame sonore le 15 octobre 2018, La La Land Records, qui sortira bien sûr la trame sonore de Friday the 13th, The Final Chapters. Et finalement, le 12 juillet 2012, eh bien, on aura du côté de La La Land, qui sera produit à 1300 exemplaires seulement, une compilation des 6 premiers films au niveau musical, donc Friday the 13th, Part 1 to 6. Donc ça également, vous pourrez retrouver pour la première fois la musique du film Friday the 13th, Part 4, dont je vous fais jouer ici un extrait.
Thank you.
niveau des cotes Mediafilm, Friday the 13th Part 3 in 3D sera coté 6 par Mediafilm. Je donne la même cote, un film qui manque beaucoup, beaucoup de rythme, bien que plus intéressant que le premier film. Au niveau de la régie du cinéma, on va coter le film 16 ans et plus. Moi, je vais le coter 18 ans pour des scènes, bien sûr, très violentes. Du côté de Friday the 13th Part 4, The Final Chapter, donc, bien sûr, la cote de Mediafilm est 6 médiocre. Moi, j'y vais avec un 5, beaucoup mieux rythmé, beaucoup plus intéressant et, comme je disais tantôt, oui, OK, l'histoire est toujours aussi abrutie, mais ça demeure le meilleur film de la franchise. Au niveau de la régie du cinéma, eh bien, le film est coté 16 ans et plus. Donc, moi, j'y vais avec une cote également 18 ans pour scènes de violence extrême et nudité et langage vulgaire. Au niveau de la sortie en DVD, eh bien, le film est sorti en DVD et en Blu-ray. Plusieurs éditions qui existent. Je vous dirais qu'à un moment donné, il y a quand même eu une édition 3D qui est sortie parce que le film est sorti en trois dimensions pour la première fois tout récemment. Vous avez d'ailleurs les lunettes 3D. Ça, c'était en 2017. Alors, vous avez la version française et la version anglaise à l'intérieur. Vous avez également, bien sûr, les coffrets qui incluent tous les films de la série, mais ceux-là sont seulement, malheureusement, en version anglaise. Du côté de Friday the 13th Part 4, eh bien, dans ce cas-ci, The Final Chapter, vous avez le DVD qui inclut les deux versions, soit français et anglais. Cependant, dans les nouvelles éditions, vous n'avez que la version anglophone. Donc, Friday the 13th Collection, qui a été sorti en DVD, en Blu-ray 10, pardon, qui inclut les 8 films de la série. Vous avez Friday the 13th The Complete Collection, encore une fois, en Blu-ray disc, qui, elle, également n'inclut que la version anglaise. Et puis, vous avez d'autres petits coffrets, là, de 1 à 4, la première quadrilogie qui est ensemble. Vous avez il y a plein de choses. Il y a toujours moyen de se trouver ces genres de films-là sur le marché sans trop de difficultés. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.